Nous ouvrons donc la parole de Dieu dans le livre de la Genèse et aujourd'hui nous allons regarder le chapitre 17. Alors, il faut que je vous explique un peu parce que au début ce chapitre est bien rempli et j'avais le désir de le faire en deux fois, mais finalement ça serait donner un peu trop d'importance simplement aux détails. Et nous voulons avancer, nous voulons regarder la grande fresque de ce que Dieu fait dans sa grâce, dans son alliance, au travers de cette lignée Abraham et ses descendants. Et donc, nous allons regarder tout le chapitre 17, je vais le lire et nous allons avancer. Donc, chapitre 17 de la Genèse, verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Verset 9. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Car voici, c'est ici, mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis, qui n'aura pas été circoncis dans sa chair, sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. » Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï. Mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, « Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans ? » Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face !» Dieu dit, « Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. » À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'extrême. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Abraham prit Ismaël, son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il les circoncit ce même jour, selon l'ordre que Dieu avait donné. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce même jour, Abraham fut circoncis ainsi qu'Ismaël, son fils. Et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison ou acquis à prix d'argent des étrangers, furent circoncis avec lui. Et c'est la parole de Dieu. Donc nous voulons continuer dans notre étude de la grâce dans la vie et dans la lignée d'Abraham. Et ici, au chapitre 17, nous voyons, comme j'ai mis en titre, El Shaddai, le Dieu de l'Alliance. Car ce chapitre est surtout une révélation au sujet de Dieu. Pour certains d'entre nous, 13 années sont un temps assez court. Beaucoup d'activités font passer le temps très vite. Et cherchant à se rappeler quelque événement passé, on en vient à ne plus savoir si c'était telle ou telle année. Et on se dit en regardant les photos, il aurait fallu qu'on mette la date. Pour d'autres, ces mêmes 13 années peuvent sembler être une éternité. J'ai un jeune ami, par exemple, qui a 17 ans, je crois. 13 ans, c'est presque toute sa vie. Il y a 13 ans, il était tout petit. Et en fait, j'ai plus de photos de lui à cet âge-là qu'il a de souvenirs de l'époque. Et ces deux aspects devaient se côtoyer dans la maisonnée d'Abraham et de Sarah pendant les 13 années qui interviennent entre les événements du chapitre 16 que nous avons vu la semaine dernière et le temps de ce chapitre 17 que nous regardons maintenant. 13 années. Ismaël a grandi. C'est un jeune ado maintenant. Et avec le travail prenant de gérer de grands troupeaux, une maisonnée nombreuse, toute cette activité normale de la maisonnée d'Abraham a dû faire que les années sont passées rapidement. En même temps, 13 années de silence de la part de Dieu. C'est une longue période. Bien entendu, silence et absence de visite ne veulent pas dire qu'Abraham avait mis en suspens la marche de sa foi, que Dieu ne le bénissait pas. Il est bien certain que le patriarche marchait chaque jour comme le père des croyants, parce que la foi qu'il avait est une foi qui vient de Dieu. Ne voyait-il pas chaque jour, en regardant Ismaël, le rappel que Dieu entend. Rappelons-nous qu'Ismaël veut dire Dieu entend. Il lui avait donné ce nom il y a 13 années en obéissance au commandement de Dieu. Et donc, cette maisonnée Cain a avancé. Un certain équilibre avait été atteint dans la maisonnée, car on ne lit plus que Sarah maltraitait Agar. Et on ne lit pas non plus que Agar maîtrisait sa maîtresse. 13 années d'une vie normale, mais 13 années durant lesquelles Dieu ne se manifeste pas en ce qui concerne la promesse et cette alliance. Et cela est long. C'est un long moment. Et il se peut que parmi nous, il y ait des gens, des bien-aimés qui ressentent cela. Dieu reste silencieux. même si la vie spirituelle de mon cœur ou ma marche dans la volonté du Seigneur se poursuivent d'une manière ou d'une autre, il semble que Dieu, le Dieu de l'Alliance, soit vraiment le grand absent, d'une manière vivante. Il peut même y avoir eu de notre part des tentatives de régler la situation, de faire quelque chose pour que ça change. Mais après quelque temps, on s'aperçoit que ça n'a pas marché. Et la situation est souvent presque plus compliquée. Ici, nous sommes en train de nous approcher, dans la vie d'Abraham, du quart de siècle depuis l'annonce de la première promesse. Quelle joie donc, après près de 25 années, de lire au verset 1 « L'Éternel apparut à Abraham ». Et c'est là que nous voulons prendre notre premier grand point, que j'intitule « El Shaddai ». El Shaddai. Nous ne savons pas comment l'Éternel est apparu à Abraham. Nous lisons seulement au verset 22, après cette révélation, que Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. C'est peut-être une référence à l'ange de l'Éternel, comme ce sera le cas bien souvent dans les livres historiques qui suivront. Tout compte fait, la chose n'a pas grande importance. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Et n'en est-il pas ainsi pour le croyant? Soudain, le Seigneur s'approche et il fait briller quelques passages dans sa parole ou bien il communique quelques joies spirituelles au travers de telle ou telle circonstance de la vie. Et voilà que le cœur danse et vous avez même du mal à vous rappeler comment la chose est arrivée. Ce n'est pas important. Écoutez tout simplement ce qu'il vous dit, et vous êtes tout oui. Votre attention est au maximum. Le plus souvent, mes amis, vous témoignerez que ce que Dieu dit alors qu'il vient, qu'il s'approche de vous, correspond exactement à vos besoins et vous permet d'avancer sur le chemin. Oh oui, il faudra certainement d'autres visites, car nous sommes dans un monde hostile, un monde où tout est étranger à Dieu. Mais voilà que ce que Dieu dit permet d'avancer un bout du chemin. Et vous qui m'écoutez et peut-être qui ne connaissez pas encore le Seigneur dans cette communion intime qui apporte la paix, votre cœur est peut-être torturé par des questions, des questionnements, des doutes, des craintes. Personne ne le sait. Personne ne le voit. Mais les interrogations sont bien là. Eh bien, sachez une chose. Le Seigneur sait. Le Seigneur voit. Et le Seigneur entend. Et donc, levez les yeux, guettez-le et ne le laissez pas tranquille, mais venez à lui, implorez-le, même sur votre couche, là, alors que vous êtes allongé et qu'il n'y a personne. Eh bien, implorez-le, car il entend, il sait et il voit. Et c'est le Dieu qui parle. C'est le Dieu qui parle. Et voilà que l'Éternel arrive et vient vers Abraham. Et il en était certainement ainsi pour Abraham, donc, tout croyant qu'il était, et même restauré et ramené par Dieu après les défaillances qu'il a eues en Égypte et avec l'Égyptienne. Il n'en demeure pas moins que chaque jour le mettait en face des complications que ses faux pas avaient engendrées. Il y avait Ismaël, il y avait la promesse, il y avait une situation dans la famille. Et les années passaient. Et le trouble augmentait. Sarah, en plus d'être stérile, était maintenant très âgée. C'était fini avec elle, on pourrait dire. Et c'est d'ailleurs la terminologie qui est utilisée dans un passage. Et regardez-le lui-même, 99 ans. Qu'est-ce qu'on peut attendre vraiment? Alors, précisons, Abraham n'est pas déchu de sa foi. Au contraire, sa foi fortifiée par le fait que Dieu restaure, cette foi engendre en fait les interrogations de son cœur. Parce que si Abraham ne croyait pas dans la promesse, il ne se torturerait pas. Il a un fils déjà. Mais il y a ces interrogations de ne pas arriver à faire correspondre ce que Dieu a dit avec la réalité des choses. Comment, au grand comment, Dieu va-t-il accomplir sa promesse? Les choses que Dieu a réservées pour les siens ne montent même pas au cœur de l'homme. Il ne peut pas les imaginer. Et ici, Abraham n'avait absolument aucun moyen de savoir ce qui allait se passer. Et c'est à ce point-là que l'Éternel apparaît à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant ». Et c'est tellement mesuré, c'est exactement ce qu'il faut. Il lui dit « Je suis El Shaddai ». Et dans d'autres endroits, c'est traduit « Je suis l'Éternel, le Seigneur des armées ». C'est-à-dire « Je peux tout ». Je peux toute chose. Il est possible que ces expressions soient devenues pour nous des lieux communs religieux. J'ai souvent vu dans mes voyages le nom El Shaddai qui est mis en titre sur des affiches pour telle ou telle rencontre religieuse, mais son emploi, là, est guidé pour simplement attirer l'attention et faire venir les gens, et bien entendu pour gonfler la collecte. En fait, ce qui motive l'utilisation de ce nom, ça n'est pas vraiment la vérité qui est révélée là, dans ce nom. Alors, sans tomber dans les caricatures, il nous faut reconnaître que bien souvent, nous approcher du Dieu vivant ne fait pas disparaître nos craintes et ne met pas un terme à tous nos calculs pour régler la situation. Nous venons auprès du Dieu Tout-Puissant, mais nous continuons à chercher comment faire quelque chose. Telle est l'incohérence de notre nature. Dieu peut tout. C'est l'Éternel des armées. Et cette expression me fait penser juste pendant une seconde à cette parole du Seigneur Jésus quand Pierre cherche à l'aider à se sauver. Il dit, mais ne puis-je pas demander 12 légions d'anges qui viendront me délivrer, l'Éternel des armées. Mais cela ne nous empêche pas de ne pas saisir vraiment, sauf par révélation, ce que Dieu a préparé pour son peuple. Même Abraham, l'homme de foi, n'arrive pas totalement à saisir toute la portée de l'alliance de Dieu et du nom de Dieu. Regardez au verset 17, il continue à raisonner. Comment est-ce que cela peut arriver? Regardez le verset 17. Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Qui a jamais vu ça? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Qui a vu cela? Et Abraham dit, voilà Abraham, il a la solution. Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Voilà, au moins Ismaël, je peux le voir. Pourquoi aller plus loin? Je ne peux pas voir cela. Vous voyez, il est encore dans le domaine de l'homme. Mais Dieu vient et il se révèle comme El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Et en se révélant comme El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel révèle qu'il est en contrôle et que ce qu'il va faire n'est pas quelque chose que l'homme peut même imaginer. Le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, mes amis, n'est pas seulement un nom qui sonne bien. Ça n'est pas seulement quelque chose qu'on peut mettre dans un champ. C'est une révélation que le Dieu de la Bible peut toutes choses, même ce qui vous semble impossible. Et je dirais surtout ce qui vous semble impossible. Si quelque chose ne se produit pas, c'est parce que Dieu ne le veut pas. Ça n'est pas parce que Dieu ne le peut pas. Amis croyants, c'est ici votre Dieu. Alors, pourquoi ces tumultes? Pourquoi ces questionnements? Pourquoi ces rébellions? C'est chercher à comprendre. Simplement, voir Dieu agir. Ici, l'Éternel vient à Abraham, le père d'Ismaël, l'homme de foi, l'homme qui désespère maintenant de voir la promesse se réaliser, l'homme qui cherche toutes sortes de solutions. Il vient auprès du mari d'une femme qui est passée l'âge de porter un enfant. Et dans tout ce désespoir, et dans toute cette incapacité de la foi, Dieu dit, c'est vers moi que vous devez tourner les regards. C'est moi qui peux tout. Je suis El Shaddai. Je peux faire tout ce que je veux, même ce que vous ne comprenez pas. Ma puissance, peuple de la foi, ma puissance est plus grande que votre incapacité, plus grande que votre incrédulité. Et le Seigneur Tout-Puissant, renouvelle son alliance avec Abraham. Et le reste de notre chapitre nous montre, c'est notre deuxième point, l'alliance. Et vous aurez remarqué, bien entendu, à la lecture, que nous ne pouvons pas entrer dans tous les détails. Et quelquefois, entrer dans les détails peut nous faire perdre de vue la réalité de la chose. Nous allons avancer, tout simplement, et essayer de voir ce que Dieu dit et fait avec Abraham. Sous beaucoup d'aspects, Dieu se contente de répéter ici ce qu'il a déjà dit. Il va rendre Abraham fécond. Celui-ci aura une descendance nombreuse, très nombreuse, par laquelle le monde sera béni, le monde entier. Et Abraham héritera de Canaan. Nous avons déjà entendu cela. Mais Dieu ajoute certains détails qui font que nous voyons davantage le caractère spirituel de cette alliance. Et à mesure qu'on avance dans la révélation de l'alliance, on voit ce caractère spirituel qui se développe. Et ce caractère qui se développe au cours des siècles. En même temps, et parallèlement, les circonstances, avec la longue attente, avec les échecs de l'homme, avec les restaurations de la part de Dieu. Toutes ces circonstances, dis-je, donnent une profondeur nouvelle aux paroles de l'Éternel. Et n'en est-il pas ainsi pour chacun d'entre nous, vous croyants? Vous vous êtes élancé au début, comme on dit, tout feu, tout flamme. Le zèle brûlait. Mais tout ce qui est intervenu depuis, la durée du cheminement, les chutes, les restaurations, tout ce qui a occupé votre vie vous ont appris certaines choses. Maintenant, quel que soit le temps, vous avez une certaine expérience. Et quand la parole vient à vous de nouveau, maintenant, il y a une certaine profondeur insoupçonnée que vous en retirez. Quelque chose que vous ne voyiez pas avant. Et parfois, vous en arrivez même à rougir de votre inexpérience du passé, peut-être. Et vous vous dites, « Oh, comme j'étais jeune !» Alors, ne perdez rien de votre enthousiasme ou de votre zèle. Mais maintenant, vous voyez que Dieu a agi, a déjà agi en vous pour vous faire grandir dans la grâce. Vous n'êtes plus le même. Et maintenant, vous voyez sa révélation, vous voyez sa personne, vous voyez son dessein, son alliance sous un jour beaucoup plus riche, dans des couleurs beaucoup plus vives, n'est-ce pas? Et vous, qui vous savez encore étrangers aux promesses de l'Alliance. Oui, ce sont des choses que vous arrivez à comprendre quelque peu, mais dont, quand vous entendez les autres qui en parlent, vous vous dites, mais c'est eux et moi. Eh bien, vous, n'avez-vous pas appris de tous vos efforts vains? N'avez-vous pas appris de tous vos échecs? Et maintenant, la parole vient, et peut-être, elle vous atteint avec beaucoup plus de force. Tout à l'heure, nous parlions de sa main qui s'appesantit sur moi. Et à mesure que je découvre combien je suis faible et combien Dieu est pur et saint, eh bien, sa main s'appesantit. C'est de cela dont nous parlons. Eh bien, quand sa parole vient, il y a des choses que vous ne voyiez pas avant. C'est encore au dehors, mais vous voyez un peu plus. Vous commencez à distinguer certaines choses. Bien, mes amis, écoutez cette parole. Écoutez cette parole. Et quelle est cette parole? J'ai mis 3 sous-points là. Vous pourrez probablement en ajouter tout un autre nombre. Mais premier sous-point, une multitude de nations, des rois. Dieu dit à Abraham, une multitude de nations sortira de toi. Des rois sortiront de toi. Bien entendu, nous pouvons comprendre cette promesse d'une manière terrestre. Les descendants d'Abraham couvrent la terre. Ils sont partout, n'est-ce pas? Il y en a qui nous font des beaux slogans comme quoi il est le père des 3 sortes de symboles religieux. Les juifs, les chrétiens, les musulmans. On peut le comprendre d'une manière terrestre. Des peuples, toute une société multiple est issue d'Abraham. Mais tant la foi d'Abraham que l'interprétation du Nouveau Testament nous élèvent à un niveau supérieur et spirituel. Abraham n'a pas compris cette promesse, ne voyait pas cette alliance d'une manière terrestre. Et l'Ancien Testament porte témoignage de cela continuellement. Continuellement. Prenez une concordance, prenez Abraham, prenez Alliance, et vous verrez le nombre infini presque de textes qui portent témoignage à cela. La promesse ici ne concerne pas la famille d'Abraham, mais elle concerne plutôt le dessein de Dieu. La famille d'Abraham entre comme instrument dans ce dessein. Mais c'est le dessein qui prime. Cette promesse ici, ça n'est pas tant fait au père d'Ismaël et au futur père d'Isaac qu'à celui qui, par la foi que Dieu lui a donnée, a été justifié. Là encore, Abraham n'est pas tant justifié par la foi que par le moyen de la foi. C'est cette foi que Dieu lui a donnée. La promesse s'accomplit en fait en celui, majuscule, C majuscule, qui est le sujet de la promesse. Celui que Abraham a vu, celui que Dieu annonce, celui que Dieu envoie, et en celui en qui Dieu est pleinement satisfait. La promesse concerne Christ. En fait, l'Alliance et sa promesse sont en Christ et d'une manière ou d'une autre, Abraham a saisi cela. Jésus lui-même, comme je l'ai mentionné, témoigne qu'Abraham a vu son jour et il s'en est réjoui. Il s'en est réjoui. Toute cette alliance, mes amis, que Dieu répète ici à Abraham est spirituelle. C'est une alliance de grâce qui est en Christ. Et c'est pour cela que le Nouveau Testament précise que ce n'est pas fait dans les postérités. Nous verrons plus loin qu'il y en aura plusieurs. Ismaël, Isaac, non, mais en ta postérité, c'est-à-dire celui qui est promis dès avant le commencement. Elle transcende la division de la chair et de la promesse. Il n'y a pas la chair d'un côté et la promesse de l'autre. Non, parce que même ceux qui viennent dans la chair pourront un jour être incorporés dans la promesse. Elle vise toutes les nations de la terre parce que c'est en Christ. Parce que comme nous l'avons vu, ça n'est pas dans la loi, mais c'est en dehors du registre de la loi, c'est le principe de la foi. Cette promesse, cette alliance, concerne toutes les nations, toutes les tribus, tous les peuples, car cette promesse se saisit par la foi que Dieu donne, par la vie qu'il plante dans des cœurs morts. Et c'est ainsi que la venue d'Isaac va être une démonstration de la vraie nature de l'alliance et de la promesse de l'alliance de Dieu. Abraham n'est plus Abraham, le père élevé, pour lequel il ne peut rien faire. Mais il devient le père d'une multitude. Fini les espoirs qui viennent de la chair, de ce qu'il peut faire, de ce qu'il peut créer et procréer. Maintenant, tout se focalise sur ce que Dieu fait au travers d'Abraham. Il est le père des croyants, bien plus davantage qu'il est le père d'Ismaël ou d'Isaac. Il est le père des croyants, d'où que ces croyants viennent, car c'est Dieu qui donne la vie nouvelle à des cœurs morts, des multitudes de nations, des rois. Et effectivement, viendra finalement le roi davidique ultime, celui qui a à la fois l'alliance et le pouvoir d'exécuter l'alliance. Deuxième sous-point, Sarah. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé, nous dit la parole de Dieu, mâle et femelle. Ce n'est pas seulement Abraham qui est l'instrument de la promesse, sa femme aussi. Elle était une princesse, c'est ce que veut dire Saraï. Maintenant, elle devient la princesse. C'est le sens de Sarah. Abraham était tout imprégné de la promesse d'origine au sujet de la postérité de la femme. Ici, au travers de la stérilité de Sarah, Dieu fait une chose nouvelle, qui en fait s'aligne, est en résonance avec ce qu'il a annoncé à Adam et Ève. Il va faire quelque chose qui ne vient pas à travers de l'homme, mais qui est la postérité de la femme. Et maintenant, Sarah, stérile comme elle est, est instrument dans le dessein de Dieu. L'Éternel fait une chose nouvelle, et cela nous montre, avec tant de clarté, que le salut vient de l'Éternel seul. L'homme, mes amis, n'y a pas la moindre part. Mettez-y le tout petit, tant soit peu, quelque chose qui vient de la part de l'homme, vous détruisez le salut véritable. La postérité de la femme au début de Genèse, Sarah la stérile maintenant, et puis Marie la Vierge. Toutes ces choses nous assurent du fait que le salut de Dieu est parfait. Il est réussi. Pourquoi? Parce que l'impuissance de l'homme n'y entre pas. Aussi, quand nous entendons plus tard résonner ce grand cri sur la colline de Golgotha, « Tout est accompli !» nous savons qu'il ne reste plus rien à faire. Toutes les promesses de l'Alliance sont « oui » et « amen » en celui que Dieu a désigné, en celui qu'il a envoyé, en celui qui a triomphé. Sarah, la stérilité de cette femme nous parle de l'alliance de grâce. Troisième sous-point, en fait nous en aurons quatre. Canaan. Dieu ajoute dans la stipulation de son alliance, Dieu ajoute que la postérité d'Abraham recevra en héritage le pays que tu habites comme étranger, dit-il, tout le pays de Canaan. Et Dieu précise que cette possession sera
perpétuelle.
Bien entendu. Venant dans le cadre d'une alliance spirituelle, cette promesse ne peut pas concerner la Palestine géographique. Et c'est important pour nous de le préciser, parce qu'il y a des courants de pensée qui font grand cas de cette géographie de la Palestine.
Non, ça n'est pas possible.
D'ailleurs, il est intéressant de relever que même dans le cadre de l'alliance mosaïque, le peuple d'Israël n'a jamais possédé le pays de Canaan. Ils l'ont occupé, ils y ont vécu, mais ne l'ont jamais possédé. C'était la possession de l'Éternel. Et il y a d'ailleurs plusieurs lois particulières, précises, qui venaient du fait que le pays n'était pas le pays de la nation, mais il appartenait à l'Éternel. Et donc, cette promesse ne peut pas concerner la Palestine géographique. Ça n'est pas possible. Ici, bien entendu, nous avons une promesse de la résurrection, du fait que l'Alliance ne se limite pas à ce pauvre monde et à cette vie éphémère. Sinon, Dieu ne peut pas parler d'une alliance perpétuelle. C'est quelque chose qui va dépasser cet ordre des choses dans lequel nous vivons aujourd'hui. Non, ça ne peut pas être ça. Et effectivement, il vient de nouveaux cieux, il vient une nouvelle terre, complètement différent de ce que nous connaissons ici. Un environnement où le peuple de la promesse, le peuple de la foi, habitera dans la justice et dans la présence même de Dieu et de l'agneau. C'est quelque chose qui est complètement différent. Et c'est la possession qui est donnée au peuple de la foi. Je donnerai ce pays, cette nouvelle terre, à perpétuité. Voilà vraiment l'alliance que Dieu fait avec Abraham et avec ses descendants. Abraham, le père des croyants. Canaan. Nous avons vu donc une multitude de nations. Nous avons vu des rois qui sortiront d'Abraham. Nous avons vu Sarah, la stérile, qui est utilisée par Dieu. Canaan, la promesse qui n'est pas pour ici et maintenant simplement, mais qui va jusque dans l'éternité. Et puis, en quatrième sous-point, la circoncision. Car Dieu enjoint ensuite Abraham, il ordonne à Abraham de circoncire tout mâle dans sa maisonnée. Alors, mes amis, on a fait beaucoup de cas de cette circoncision, notamment les Juifs, qui ont en quelque sorte intercepté cette circoncision et qui en ont fait un signe national et un des éléments qui leur servait à procurer le salut. Cela n'est pas la réalité. En fait, la circoncision existait déjà avant, mais pas dans cette maisonnée. Et en réalité, par cette circoncision, Dieu montre deux choses. Et il nous faut voir que nous ne devons pas être centrés sur la circoncision. Dans ma préparation et ma réflexion sur ce passage, j'étais tenté, comme je l'ai dit au début, de faire deux messages et de me concentrer davantage sur cette circoncision. Mais j'ai compris, je pense que c'est la teneur du passage, que la circoncision ici, bien que détaillée et occupant plusieurs versets, n'est pas centrale au passage. Elle est devenue centrale parce que les hommes en ont fait, mais elle n'est pas centrale au message. Dieu, en fait, montre deux choses par cette circoncision. D'une part, il montre que ce qui est circoncis ne peut pas être défait. C'est une chose définitive. L'homme pratique la circoncision dans la chair et personne ne peut reverser cette circoncision. Quand tu es circoncis, tu meurs circoncis. un point, un trait. C'est tout. On ne peut pas défaire. Il y a des tas de choses qu'on peut faire au niveau de notre corps, mais cela, on ne peut pas le faire. Et bien sûr, quand il est question de la vraie circoncision, dont il est question dans la Nouvelle Alliance, n'est-ce pas? La circoncision du cœur, seul Dieu peut l'accomplir. Le Nouveau Testament nous parle de cette circoncision que la main de l'homme n'a pas fait, ne peut pas faire. Mais surtout, surtout mes amis, personne ne peut renverser ce qui est fait. Celui qui est circoncis, dont le cœur est circoncis, ne peut pas être décirconcis. Il ne peut pas revenir à son premier état. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Et nous le disons avec révérence, même Dieu lui-même ne peut pas renverser la vapeur, si on peut dire. Non. Quand Dieu ouvre un cœur, quand Dieu plante dans ce cœur la vie nouvelle et spirituelle, c'est fait et c'est permanent et c'est sécurisé. L'homme, la femme, le jeune, l'enfant, dont le cœur a été circoncis par Dieu, connaîtra l'éternité en présence de Dieu. Quel repos, Seigneur, d'être à toi. Le croyant peut vraiment chanter cela, n'est-ce pas? Véritablement, il n'est pas possible de défaire ce que Dieu a fait. C'est une des choses que la circoncision nous montre, et que Dieu nous montre par la circoncision. Ça ne peut pas être défait, c'est définitif. L'autre chose que Dieu montre en ordonnant à Abraham de circoncire et de le faire à toute sa maisonnée est un trait essentiel du salut et de la vie nouvelle que Dieu donne, c'est-à-dire l'obéissance. L'obéissance. Et nous avons vu dans notre lecture que celui qui n'est pas circoncis, c'est-à-dire celui qui refuse d'être circoncis, eh bien, en fait, il doit être retranché de l'alliance. Et le mot qui est utilisé est intéressant, c'est le mot « couper ». Tu ne veux pas couper, tu es coupé. C'est cela. L'obéissance. L'homme naturel, mes amis, dans sa nature déchue de sa naissance, c'est un homme qui se caractérise par la rébellion et par la désobéissance. Ce n'est pas toujours ouvert, ce n'est pas toujours visible, mais c'est toujours présent. Ce peut être simplement des questionnements, mais c'est de la désobéissance, c'est de la rébellion. C'est toujours présence. Quand, en vertu de la promesse, Dieu implante une nouvelle vie dans le cœur d'un élu, cette vie est principalement caractérisée par l'obéissance. Et je me rappelle le passage où nous voyons Jésus parler avec Zachée. Vous vous rappelez? Et Luc nous montre comment Zachée est converti. Il ne nous dit pas « Zachée est converti », mais il nous montre comment Zachée est transformé, Zachée devient un homme nouveau, parce qu'il reprend exactement les mêmes mots de l'ordre de Jésus. Descends, hâte-toi de descendre de l'arbre, car il faut que je demeure chez toi. Et il se hâta de descendre de l'arbre et le reçut avec joie. Vous voyez, c'est cela, la caractéristique principale qui suit l'œuvre de Dieu dans le cœur, cette circoncision qui ne vient pas de la main de l'homme, c'est l'obéissance. En fait, l'exercice même de la foi en Christ est un acte d'obéissance. C'est faire ce que la parole dit. On ne parle pas ici d'effort de la chair pour gagner le salut ou pour conforter le salut. Non, c'est plutôt la vie de la vie nouvelle qui n'est autre que la vie de Christ. Et rappelons-nous, comme le témoigne le Nouveau Testament, que pour Christ, faire la volonté de son Père, c'était une véritable nourriture. Il n'avait pas besoin de manger ce que les apôtres avaient acheté dans la ville de Samarie. Non, il était ragaillardi, il était fortifié par l'obéissance à la volonté de son Père. Le croyant, mes amis, même dans sa faiblesse, ne vit pas comme l'incroyant. Et j'irai même jusqu'à dire, et j'espère qu'on ne va pas se méprendre sur mes paroles, que le croyant ne peut pas pécher comme l'incroyant. Non. Mais le croyant, même faible, même en train de boiter, ne peut pas vivre comme l'incroyant. Pourquoi ? Parce qu'il obéit à Dieu, dont la volonté est clairement révélée dans sa parole. Et cela nous montre toute une dimension, toute une riche dimension de la vie chrétienne. La vie chrétienne, mes amis, est une vie transformée. C'est une vie qui est remplie d'une puissance, la puissance de la résurrection. Veillons bien à cela, mes amis. Celui qui croit obéit, et cette obéissance se traduit dans sa vie. Ça n'est pas qu'il gagne des points avec Dieu. Non, tout ce que nous avons dit avant serait balayé si c'était le cas. Non, c'est qu'il vit une vie qui n'est pas la sienne, mais qui a été donnée, qui est venue s'implanter en lui. Il est maintenant un racheté du Seigneur. Et donc, veillons à cela. Celui qui est véritablement croyant, de manière biblique, de manière divine, mes amis, celui-là ne peut pas vivre n'importe comment. Et la chose nous est clairement révélée dans sa parole. Et écartons-nous complètement et sans retard de quiconque enseigne que la vie nouvelle n'est pas une vie transformée, que peu importe ce que je fais, du moment que je me repens, du moment que j'ai prononcé la phrase magique, du moment que je dis que et que je pense, que je crois. Non, absolument pas. Ça, c'est une hérésie. Non, éloignons-nous de cette erreur et éloignons-nous de tous les apôtres de cette erreur, qu'elle soit enseignée par le plus grand des hommes. Non, c'est une alliance qui est renouvelée et Dieu fait cette alliance et toutes les promesses de cette alliance en Christ. Une promesse qui vient, une alliance spirituelle, des vies transformées. Et mes amis, c'est le défi pour chacun d'entre nous, croyant, incroyant. Si vous croyez, mon ami, est-ce que vous vivez selon la puissance de cette foi? Est-ce que cette parole de Dieu qui est venue à Abraham, est-ce qu'elle est votre nourriture? Non pas simplement ce que vous emmagasinez dans votre cerveau, mais l'énergie qui occupe chaque moment de votre journée. Et à vous qui écoutez, mais vous ne connaissez pas encore. Ce n'est pas une tare, c'est simplement la nature, n'est-ce pas? Mais déjà, vous avez vu qu'il y a quelque chose et vous êtes fatigué, vous êtes chargé. Eh bien, regardez. L'offre est là. Dieu est venu. Il fait une alliance qui suit son dessein. Il a déjà tout préparé, si bien qu'il peut imputer, mettre au compte d'Abraham la justice d'un autre. Ne peut-il pas le faire pour vous? Comment est-ce qu'Abraham est venu? Par la foi. Mais cela est très nébuleux, n'est-ce pas? Beaucoup de gens parlent de la foi. C'est dans les nuages. On y a mis toutes sortes de choses, ce genre de mots à géométrie variable. Comment est-ce qu'on sait ce qu'est la foi? La foi entend parce que Dieu a donné la vie et la foi obéit. Est-ce que la foi, en obéissant, devient un esclavage? Non, cela devient une liberté, la liberté des enfants de Dieu. Que le Seigneur bénisse ses paroles, qu'il touche notre cœur, et qu'il touche notre cœur avec la puissance de la résurrection de son Fils, en regardant cette alliance. Et que Dieu se plaise le Dieu Tout-Puissant, celui qui peut faire tout ce qu'il veut, sans obstacle, sans retard, sans quoi que ce soit. Que ce Dieu-là vienne à chacun d'entre nous et se glorifie dans notre obéissance. Amen.